Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre troisième recommandation de lecture pour votre été aujourd'hui est le Docteur Faustus de Thomas Mann, ou comment revisiter le mythe de Faust du point de vue de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale par l'un des plus grands écrivains modernes de la décadence. Mais oui, car été et beauté ne riment pas toujours avec légèreté. Bonjour André Hirt.
Bonjour Adèle Vendrette.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie en Cagne, au lycée Faidherbe de Lille. Et c'est vous qui allez nous donner envie de lire ce livre de Thomas Mann qui n'est pas le plus connu.
Non, ce n'est pas le plus connu, mais
c'est... Ni le plus facile.
Ni le plus facile, sûrement pas. C'est sans doute l'œuvre de sa vie, c'était son œuvre préférée à la fin. Et c'est le roman de notre époque, je le cite.
C'est vous qui venez en parler parce que Maude Markiewicz, qui fait partie de l'équipe des Chemins de la Philosophie, à qui j'ai demandé quelle est la lecture qu'elle recommanderait aux auditeurs pour cet été, a cité le Docteur Faustus de Thomas Mann. Et donc, comme vous lui avez consacré un livre, vous êtes avec nous aujourd'hui en studio, mais aussi Maude Markiewicz, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez choisi parmi toutes vos lectures? On parlera vendredi de Carson McCullers, que vous avez également sélectionné. Pourquoi le Docteur Faustus de Thomas Mann en particulier?
Je dirais surtout pour l'espèce de mythologie du génie qu'on y trouve, avec cette image de l'artiste asservi à son destin et qui succombe pour avoir voulu surmonter ce qu'il y avait de trop humain en lui. Et justement, une des questions que je me posais, c'était à quel point est-ce que Mann accède ou non à cette mythologie-là. C'est-à-dire, par exemple, il y a une chose qui ne remet jamais en question, c'est... le lien entre le génie et la maladie, ce qu'il appelle l'intoxication créatrice. Comment dire, tout se passe comme s'il y avait une logique imparable dont on est prisonnier en lisant le roman.
André Hirt.
Oui, mais je reprends au bon le mot de logique. Cette logique imparable qui lirait la maladie et le génie créateur. Mais cette logique, c'est tout simplement le pacte. Hein, c'est ça le pacte. C'est-à-dire que pour qu'il y ait création, il faudrait, dans cette tradition qui était celle en particulier de la musique allemande, puisque c'est quand même centré sur la musique et sur cette musique qui est, comme disait Nietzsche, l'art le plus tardif dans les civilisations, comme s'il y avait là quelque chose, un nœud, une fatalité mythique, de laquelle on ne pourrait pas sortir. Et simplement, tant que cela reste sur le plan de l'art ou de l'esthétique au sens le plus courant du mot, enfin pour l'homme du commun, les choses, disons, peuvent être un peu supportables, mais dès lors que la question devient celle de la civilisation, c'est-à-dire dès lors que le génie et le refus de l'humain, d'une certaine manière, se traduisent dans l'histoire et se traduisent... sur le plan politique et historique. Alors là, les choses deviennent beaucoup plus graves.
Alors, il faut, pour comprendre votre question, Maude, et votre réponse, André Hirt, préciser ce dont on parle et ce sur quoi porte le livre. D'abord, tout simplement, le mythe de Faust. Rappelez-nous de quoi il s'agit.
Oui, alors, on peut... Enfin, il y a plusieurs lectures du mythe de Faust. C'est extrêmement compliqué à situer. Mais disons, pour notre affaire, pour clarifier les choses, disons qu'il y aurait là... Pour Thomas Mann, Faust, c'est le personnage qui établit ou contracte un pacte avec Méphistophélès pour avoir la possibilité de créer quelque chose de supérieur.
Méphistophélès, c'est-à-dire
voilà,
le diable.
Voilà, le diable. Mais naturellement, ce pacte a un coût. Ce coût, c'est le rejet de l'humain, c'est l'impossibilité de l'amour. Hein, voilà, disons, pour le thème même du livre, l'essentiel est là. Bien sûr, il y a la dimension proprement faustienne, la dimension qu'on appelle de la transgression de quelque chose, des transgressions des limites même de l'humain, et donc toute cette exploration d'un domaine proprement diabolique. Ça aussi, ça appartient à la façon dont Thomas Mann traite le mythe de Faust. Mmh. Mais il ne prétend pas, par exemple, entrer dans les problématiques, par exemple, qui sont beaucoup plus parcourues aujourd'hui à propos de Faust, de la technique, de tout ce qui a trait au vivant, tout ce qui a trait à ces choses-là. Non, le problème de Thomas Mann, c'est plutôt ce nœud, hein, ce nœud de comment dire, qui consiste à ne plus pas être un dieu d'un côté, à ne pas être un homme de l'autre, mais à être une espèce de création, d'auto-création, sui generis, hein, d'une certaine manière, et qui donne naissance à ce personnage si singulier de Faust, enfin, dans au moins le premier Faust de Goethe, même si il y a dans l'intervention qui est celle de Goethe lui-même, il y a une espèce de tempérance qui est produite, où Goethe avertit bien sur les limites même de ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Bon, c'est-à-dire d'avoir part au divin dans la création.
Oui, parce que lorsque Faust signe un pacte avec le diable, il se met en quelque sorte à la place de Dieu. Il fait exploser les limites de la finitude et de l'humanité. Oui. C'est cela qu'on peut lui reprocher. Enfin, c'est cela qu'il va payer.
Oui. Mais toute la question, c'est comment être un homme, mais un homme en quelque façon un peu augmenté. Hein. C'est toutes ces dimensions de la fin du XVIIIe siècle, parce que ça s'inscrit quand même là, chez Goethe, du moins dans le premier Faust. Mais disons, ça n'est pas sur cette question technique que Thomas Mann insiste, c'est beaucoup plus, et on le voit à la fin du livre, sur la question de l'humain, de l'homme, du danger qu'il y a à transgresser les limites même de l'humain, ou à négliger surtout l'humain.
Je posais la question à Maud Markevitch, mais pourquoi vous, André Hirt, avez-vous écrit un livre, choisi de consacrer un livre sur ce thème-là et cet ouvrage en particulier? Vous avez travaillé sur beaucoup de sujets différents, que ce soit Baudelaire, Glenn Gould, vous êtes venu en parler à ce micro, Descartes. Pourquoi le docteur Faustus?
Parce que le livre, enfin il y a trois raisons, je crois. La première raison, c'est que c'est un livre qui m'accompagne depuis ma jeunesse, c'est-à-dire que je le lis maintenant quasiment comme un livre de philosophie, comme un livre inépuisable du point de vue de la réflexion ou de la pensée. La deuxième raison, c'est la question de la musique,
qui est très importante,
qui m'intéresse beaucoup. Et la troisième raison, qui est beaucoup plus récente, et je crois que ça n'est pas vraiment su, parce que peut-être que tous les lecteurs ne sont pas arrivés au bout de l'ouvrage, qui est assez gros. Hein. C'est un livre qui a été fini, qui a été achevé, pardon, en 1947, et qui est peut-être un des tout premiers livres qui parle des camps de concentration. Par exemple, il y a un chapitre entier à la fin, et qui pose des questions qu'on ne va découvrir ou qu'on ne va vraiment explorer que quelques décennies après. Et cette question de l'humain, ou du statut de l'humain, sur le plan philosophique, m'intéresse beaucoup, même pour les temps à venir. Ouais. Et donc, c'est autour de cette affaire-là, de cette question de l'humain, que s'est concentré, en fait, l'objectif, enfin, du livre, et en même temps son point de fuite, hein, puisque je l'ai intitulé « Chantier Faustus ». Ça veut dire tout simplement que le livre sera sans doute, va sans doute connaître une suite.
Chantier Faustus est disponible aux éditions Quimet. On recommande sa lecture tout autant d'ailleurs que le livre de Thomas Mann pour cet été. Le livre est long, vous l'avez dit, celui de Thomas Mann, hein, mais l'été est long également, donc on peut s'y atteler dès maintenant. Je vous propose qu'on écoute, qu'on commence par la fin du texte. En deux mots, le personnage principal, Adrian Leverkun, dont le narrateur raconte l'histoire, a signé le pacte avec son diable contemporain pour pouvoir créer, connaître une créativité folle et sans limite. Le prix à payer, eh bien, c'est de ne jamais pouvoir mettre à exécution l'œuvre qu'il a créée. Le voici donc sur scène face au piano dans une des dernières pages du livre.
Lévercune s'était assis au piano brun et de la main droite, il lissait les feuilles de la partition. Des larmes coulaient le long de ses joues et tombèrent sur les touches qu'il frappa, si mouillées qu'elles fussent, en plaquant des accords fortement dissonants. En même temps, il ouvrit la bouche comme pour chanter. Mais seul un cri de douleur, demeuré à jamais dans mon oreille, s'exhala de ses lèvres. Courbé sur l'instrument, il ouvrit les bras dans un geste d'étreinte. Puis soudain, comme foudroyé, il tomba et glissa du tabouret à terre. Madame Schweigestiel, pourtant la plus éloignée de nous, se trouva auprès de lui plutôt que ses voisins immédiats, car je ne sais pourquoi nous eûmes une seconde d'hésitation avant d'intervenir. Elle releva la tête d'Adriane, inconscient, et tenant le buste de mon ami dans ses bras maternels, elle cria, tournée de côté à travers la pièce, vers les spectateurs béants. « Allez-vous-en. Vous n'avez vraiment aucune compréhension, vous autres gens de la ville. Et ici, faut de la compréhension. » A beaucoup parlé de l'éternelle miséricorde, le pauvre homme, et je sais pas si elle sera assez grande. Mais une vraie compréhension humaine, croyez-moi, suffit à tout.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, un extrait du docteur Faustus, lu par Jacques Gamblin. Une vraie compréhension humaine, le voici, l'humain dont vous parlez, André Hirt, qui vous intéresse tant dans ce texte qui concerne un homme qui a pactisé avec le diable et qui donc s'interroge sur ce qu'est l'humain véritablement.
Alors, juste peut-être pour enchaîner sur cette question de l'humain, une remarque. Bon, le roman raconte, au fond, le pacte que contracte un compositeur imaginaire qui s'appelle Adrian Lévercune, avec le diable pour pouvoir produire l'œuvre d'art de notre temps, hein, pour dire les choses rapidement, qui soit à la hauteur de notre temps. Mais ce faisant, Adrian crée des œuvres d'une redoutable, soit sauvagerie, soit abstraction, et il avoue, dans les dernières pages du roman, à toute une assemblée qu'il a convoquée à cette fin. Il était censé exécuter sa dernière œuvre là au piano, et puis les gens viennent, ses connaissances viennent, et il leur explique qu'il a contracté un pacte avec le diable, et c'est là qu'il meurt. Bon, il meurt foudroyé, un peu comme Nietzsche embrassant le cheval
à Turin.
À Turin. Et ce faisant, il découvre Madame Schweigestiel, c'est-à-dire la dame qui s'occupait de lui, enfin, qui porte un nom d'ailleurs qui est le nom du silence, enfin deux fois se taire et silencieuse, rappelle que Adrian est d'abord un homme, et avec tous les traits humains, et qu'il faut avoir en quelque façon un peu pitié de lui, là où tous les invités qui étaient là sont partis, les uns après les autres. Ils se retrouvent absolument, disons, quasiment seuls. Et donc, devant cette question de l'humain, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut résumer à la fois l'art, la musique, et d'autre part, ce que Adorno appellera au même moment la société administrée, c'est-à-dire très abstraite, est-ce qu'on peut résumer l'abstraction artistique ou l'abstraction des sociétés contemporaines, ou est-ce qu'on peut résumer l'art ou disons les sociétés alors à cette abstraction-là, ou bien ne faut-il pas redécouvrir en quelque façon la dimension même de l'affectivité ou la dimension même de l'humain, c'est-à-dire une catégorie, l'humain, qui n'est pas une catégorie, disons, simplement humaniste, qui est une catégorie extrêmement charnelle, un peu comme Rousseau parlait de la pitié, c'est-à-dire quelque chose qui est inframoral, quelque chose qui est immédiatement dans le rapport sensible que nous avons avec les autres ou que nous pouvons avoir, par exemple, avec les enfants. Et c'est ça que Madame Schweigestiel rapporte là de Adrian, et qu'il est d'abord quelqu'un qui a trait proprement à la dimension charnelle et à la dimension humaine. Et je crois que Thomas Mann insiste très, très longuement ou lourdement sur cette question-là, et qui est au fond la question que Thomas Mann reformule, qui est celle de la finitude. Et qu'il reformule, je crois, et c'est ça que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre dans le roman, qu'il reconstitue comme un très grand penseur. C'est-à-dire que Thomas Mann n'est pas du tout philosophe. Enfin, bon, il n'a pas du tout cette prétention-là. Quoique, on peut en dire un mot. Mmh. Mais il reformule entièrement les questions esthétiques de l'art. Bon, ça, à la limite, hein, un écrivain peut le faire, ou un artiste peut le faire, mais aussi les questions politiques, les questions de civilisation, les questions de culture, le statut de l'humain, l'avenir des sociétés, l'avenir de la civilisation, la question de la démocratie dans le rapport avec l'art, enfin tout cela est impliqué dans ce livre. Et donc, je crois qu'on n'en a pas fini avec ce livre. Il est là, il a été très peu lu, parce qu'il est, en quelque façon, difficile à lire. On peut le lire à deux niveaux. Soit le niveau du récit, de la biographie imaginaire d'Adrian Leverkühn, soit sur un plan extrêmement technique, c'est-à-dire la technique musicale, l'inventivité dans la création. Et donc, il y a des chapitres extrêmement longs sur de descriptions d'œuvres d'art, enfin que d'ailleurs Thomas Mann invente littéralement, c'est-à-dire il décrit des œuvres d'art qui n'existent pas, ce qui est proprement prodigieux. Donc il y a ces deux niveaux.
Mais il y en a même un troisième, André Hirt, qui serait un niveau plus politique et qui consisterait à identifier le personnage principal à l'Allemagne elle-même, l'Allemagne dans laquelle vit Thomas Mann et qui, au moment où il écrit, donc il commence en 43, connaît une démesure semblable à celle que vit le personnage principal lorsqu'il signe un pacte avec le diable.
Oui, parce que le livre a deux couches qui se rejoignent, deux parallèles qui se rejoignent. C'est d'un côté un artiste génial qui devient fou, et de l'autre côté la culture allemande, la plus grande culture qui elle-même devient folle dans le nazisme.
C'est la récurrence de ce que Thomas Mann appelle les paroxysmes. Voici un extrait très court du Docteur Faustus et ensuite la voix de Thomas Mann lui-même lors d'une conférence où il établit ce parallèle entre l'exaltation par l'ivresse et l'intoxication nationaliste.
Nous baillons du temps. Mettons 24 ans. Cela te va-t-il ? De quel genre de temps s'agit-il ? Tout est là. D'un temps de grandeur, d'un temps de folie, d'un temps absolument diabolique, où tout se meut en hauteur. Car dans ce domaine, nous procurons des paroxysmes, des transports et des illuminations, l'expérience des affranchissements et du déchaînement, un sentiment de liberté, de sécurité, de légèreté, de puissance et de triomphe.
Dans les docteurs Faustus, cependant, le thème de la séduction de la mort n'est pas dominant. Dans le cas d'Adrian Leverkühn, l'artiste, il s'agit plutôt de la magie de l'exaltation par l'ivresse, par la maladie qui produit l'intoxication créatrice. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le roman, qui a beaucoup de côtés et de facettes, est entre autres aussi un roman politique, et que la passion pour l'ivresse de cet artiste correspond à l'intoxication nationaliste, ou disons fasciste, des peuples. Le pays de ma naissance s'est adonné à cette intoxication il y a 20 ans. Et c'était là aussi un pacte avec le diable qui devait le précipiter comme un héros dans l'abîme.
Peut-on dire, André Hirt, que le Docteur Faustus est un ouvrage qui s'adresse d'abord aux Allemands, aux contemporains de Thomas Mann, pour les aider à réfléchir sur leur propre sort?
Oui, dans un premier temps. Et dans un second, comme le dit d'ailleurs le livre qui s'intitule « Le journal du Docteur Faustus », que Thomas Mann a écrit en même temps que son livre, il dit qu'il l'a généralisé à toute la civilisation occidentale. Mais d'abord, c'est un livre sur les Allemands, et Thomas Mann est, comme on le sait, d'abord un Allemand. Et il y a dans ce livre, non pas une autocritique, il ne s'agit pas du tout de ça, mais un examen extrêmement scrupuleux de l'âme allemande, ce qu'on appelle la culture allemande, par opposition à la civilisation française, c'est-à-dire la démocratie. Il faut savoir que Thomas Mann a d'abord commencé par être un conservateur, un antidémocrate absolu, et que c'est son frère Heinrich Mann, l'écrivain, donc, qui l'a converti à la démocratie et qui l'a converti à la civilisation contre la culture allemande qui est très intérieure, ou disons c'est la dimension de la subjectivité luthérienne, philosophique, mais en même temps la communication avec la profondeur de la terre allemande, par opposition à la liberté française, à la civilisation française, que pour finir Thomas Mann partage. Mais ce rapport avec l'Allemagne, c'est surtout la question de savoir est-ce que l'Allemagne est coupable, est-ce qu'elle est mauvaise, ou est-ce que l'Allemagne, ma foi, n'a connu qu'un seul accident. Et c'est là où Thomas Mann dit qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise Allemagne, il y a une Allemagne qui a mal tourné. C'est sa formule. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est là où Thomas Mann est vraiment philosophe, enfin philosophe au sens très large du mot, théoricien de la culture, enfin quelque chose comme ça, c'est que au moment même où il écrit, où il écrit à la fin de 47, le Faustus est fini en 47, il écrit deux conférences, l'une l'Allemagne et les Allemands, où il réexamine cette question de l'Allemagne, et une grande conférence sur Nietzsche qui s'intitule La philosophie de Nietzsche à la lumière de notre temps. Et donc Thomas Mann dit que ces deux conférences font partie du Faustus. C'est-à-dire, il y a là, par exemple, à travers la figure de Nietzsche, la figure à la fois d'un Aufklärer, c'est-à-dire d'un philosophe des Lumières, et une dimension nietzschienne extrêmement, extrêmement française, enfin lumineuse. Et puis, il y a ce que Thomas Mann appelle de façon extrêmement violente, alors qu'il adore Nietzsche, mais les rodomontades de Nietzsche, la dégradation du style nietzschéen, le fait qu'il finit comme un guignol.
Enfin, oui, il est très dur envers Nietzsche, et il essaie de renouer avec une forme d'humanisme après Nietzsche. Voilà. C'est ça qui est formidable.
Voilà. Et il garde précisément ce trait de l'humain, du dernier Nietzsche, qui est une pensée, je crois, extrêmement profonde du charnel, de la finitude, du caractère précieux de la vie, ou de l'humain même. Et on retrouve cette scène qui est après tout centrale de l'effondrement de Nietzsche, comme disait le livre de Podhak, que Thomas Mann a lu à un moment donné pour préparer le livre, la scène de Turin, donc la scène où il y a cet effondrement de Nietzsche lorsqu'il embrasse un cheval. Mais l'essentiel, c'est que l'affaire de la civilisation, parce que c'est devenu l'affaire de la civilisation, va devenir pour Thomas Mann central, c'est-à-dire qu'on excède l'Allemagne et que finalement la question devient quel art est possible dans une démocratie, c'est-à-dire sans le génie, d'une certaine façon, est-ce qu'il peut y avoir un art sans génie? C'est ça la question.
Parce que la démocratie implique l'absence de génie, dans la mesure où le génie serait une tête qui dépasse, que la démocratie voudrait couper.
Oui, mais c'est exactement déjà la problématique du jeune Nietzsche. Le jeune Nietzsche, c'est-à-dire c'est le génie contre l'État. L'État ne fait que détruire les individualités, que la démocratie ne produit pour Nietzsche que des individus sans individualité, sans individuum. Et donc on retrouve ces vieux thèmes nietzschéens que Thomas Mann réactive et dont il montre l'extrême pertinence. Parce que il est avec Nietzsche à la fois dans une espèce d'admiration sans borne, il le dit. Et en même temps, il est extrêmement critique. Par exemple, ce qu'il dit de la phrase de Nietzsche « Soyez dur », qui est le contraire même de ce que le Faustus veut dire sur l'humain.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, il en veut à Nietzsche d'utiliser cette phrase.
Soyez dur ne signifie pas soyez le plus dur possible, soyez inhumain.
Oui.
Contrairement à certaines lectures qui ont été faites.
Il parle de la mésinterprétation de Nietzsche, puisqu'il y a dans le Faustus lui-même plusieurs chapitres à propos d'un cercle intellectuel dans les années 20 qui s'appelle le cercle de Kritvis, qui sont des cercles qui cultivent qui sont le berceau du fascisme, qui cultive dans l'art le nouveau primitivisme, des formes de nouveau romantisme, une espèce d'exaltation de la vie au sens proprement dionysiaque et violent. Et Thomas Mann parvient à mettre ça en scène et à le rendre extrêmement parlant. Et c'est d'autant plus remarquable, je crois, qu'il le fait tout de même, au contact quasiment des événements, parce que le livre, c'est quand même de 43 à 47 qu'il écrit ça. Et il a une capacité de rassembler les problématiques, disons, à la fois culturelle, civilisationnelle, et comme il dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un livre politique. Mmh. Ça, je crois que c'est un livre profondément politique. C'est-à-dire, ce livre dit, est une mise en garde renouvelée contre le fascisme et contre le nazisme. Et il montre aussi comment, dans l'art lui-même, c'est-à-dire depuis Wagner, parce que c'est quand même lui qui est là derrière, c'est-à-dire l'ivresse, la démesure, ou quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire le fait que la musique est extrêmement ambiguë, comme il dit, ou ambivalente, enfin, bon, que c'est la Kundry, enfin, la musique c'est la Kundry, Kundry le personnage de Parsifal, qui est à la fois sainte et puis tout à fait son contraire. Bon, et là, Thomas Mann montre bien comment le livre est politique, à travers la problématique même de l'art. C'est-à-dire que la question même de l'art est centrale, et il reprend ce qu'on peut appeler la méthode de Nietzsche. Nietzsche analyse la civilisation à partir de la vibration musicale.
Il faut insister là-dessus, parce que la musique est vraiment le fil conducteur de toute absolument. L'œuvre, et la musique est le lien entre l'humain, le personnage principal, mais l'humain en général, et la dimension plus politique, le national, l'Allemagne. Oui. Aussi étrange que cela paraisse, c'est pour Thomas Mann dans la musique que se fait le lien.
Oui. Oui, bon, tout le monde connaît tout de même la tradition musicale allemande. Il arrive même à Thomas Mann de dire que l'Allemagne, c'est la musique contre la littérature. Ce qui est quand même très, très étonnant, mais c'est une citation de lui. Comme si la littérature était, au fond, française, bon, ou disons latine. Et comme si la musique était, au fond, l'informe, quelque chose qui reste pris dans la régression. Et c'est aussi un grand thème du Faustus, c'est-à-dire la façon dont la musique, qui est la fleur la plus tardive de l'art et des civilisations, a des tendances régressives. Et ces tendances régressives, vers le primitivisme, vers des formes néo-romantiques aussi, apparaissent à Thomas Mann comme extrêmement dangereuse, alors même que Thomas Mann dit qu'il est wagnérien, qu'il ne peut absolument pas se séparer de ça. Et donc, le livre est grandiose à cet égard, non pas par une force d'autocritique, parce que c'est pas de l'autocritique, c'est un examen extrêmement froid, voire parfois, je dirais français, latin, humoristique, ironique, en tout cas, de sa propre culture, de sa propre personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on est, là, luthérien, musicien, wagnérien, nietzschéen? Est-ce qu'il ne faut pas un peu de latinité là-dedans, un peu d'humour, un peu de parodie, un peu de rire? Et la suite même de la carrière littéraire de Thomas Mann va le montrer. Il y a le Félix Krull, enfin il va écrire après un livre un peu plus léger sur Félix Krull, et où il va dire par exemple son admiration pour Joyce. C'est tout à fait étonnant, le côté parodique, le côté ironique. Et donc il y a cette capacité quand même à observer l'allemand en lui, à observer la grande culture en lui, et à montrer que la question même de la culture n'est pas une question innocente, que la culture elle-même peut être barbare.
J'en veux pour preuve que les plus belles pages que l'on trouve sur la musique dans ce livre sont écrites à travers la voix du diable, qui propose des réflexions sur la musique absolument inouïes, très belles et très ironiques, sans doute pour reprendre un des termes que vous avez employés, qui introduisent une distance à l'égard de cette musique qui, pour Thomas Mann, pour le personnage principal et pour le diable, et finalement peut-être la clé de voûte de toute forme de système de pensée qu'il puisse y avoir. Écoutez le diable, se demander ce qu'est l'art aujourd'hui et employer, proposer une certaine réflexion artistique. Et puis de nouveau, la voix de Thomas Mann, vous parliez de l'ambiguïté de la musique, c'est exactement le terme qu'il emploie.
La musique, une affaire hautement théologique, tout comme le péché ou comme moi-même. La passion pour la musique est une vraie passion, où connaissance et chute ne font qu'un. La vraie passion n'existe que dans l'ambiguïté et sous forme d'ironie. La suprême passion s'adresse à ce qui est absolument suspect.
Dans le docteur Faustus, la musique est comprise comme sphère démonique qui a, de prime abord, pour Adrien, quoi qu'il s'en cache, une fascination inquiétante. Il ne peut pas y résister, au contraire de sa mère, qui, comme le narrateur rapporte, avait une très belle voix, mais, par une appréhension mystérieuse, n'osait pas en faire usage. L'intention du livre n'est pas une glorification de la musique dans le sens de Schopenhauer. Sa relation envers la sphère musicale est ambiguë, passionnée et en même temps pleine de méfiance morale.
Vous écoutez Thomas Mann sur France Culture aux côtés d'André Hirt aujourd'hui qui vient nous donner envie, vous donner envie de lire le docteur Faustus pour cet été, pourquoi pas comme lecture de l'été. C'est un livre imposant, passionnant, très original et qui suscitera des réflexions qui n'ont peut-être pas été posées par en tout cas nos dernières émissions. Thomas Mann insiste sur la dimension ambiguë de la musique. Il faut dire que pour cet ouvrage, André Hirt, il a lu et fait corriger son écriture, ses pages, par Adorno lui-même, à qui il emprunte quelques conceptions de la musique, et que dans l'extrait qu'on a entendu, le diable qui parle du danger, de la passion de la musique, c'est en fait une référence à Kierkegaard. On entendait l'ironie, l'importance de l'ironie chez Kierkegaard. Donc les références philosophiques sont très présentes, et elles s'incarnent dans ce roman à travers la bouche du diable et de ses réflexions sur la musique. C'est ça qui est complètement surprenant.
Oui, au point que on a souligné aussi, c'est un peu dérangé Adorno. On a pu supposer que certaines figurations du diable dans le livre sont Adorno lui-même.
C'est ça. Bah, on se pose la question. Oui.
Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que Thomas Mann vit à Pacific Palisades en Californie, en exil, et que son voisin, enfin un de ses voisins, est Adorno. Il y a aussi là Brecht, il y a Franz Werfel, Alma Mahler, Eschenberg. Et Adorno vient l'après-midi chez Thomas Mann pour parler de musique et conseiller Thomas Mann sur la question de la musique. Alors ce que et là-dessus aussi se greffe l'idée que, comme on le sait, Thomas Mann lit Kierkegaard, beaucoup les textes donc de l'alternative ou bien sur la musique, sur Don Juan, sur le démonique, enfin bon, et le livre d'Adorno qui s'intitule Kierkegaard. Il y a un grand livre d'Adorno de jeunesse qui s'intitule Kierkegaard. Et Adorno va en faire son miel lui aussi, puisque c'est le moment où, avec Horkheimer, ils sont en train d'écrire La dialectique de la raison. C'est exactement contemporain, 43, 45, 46. Et ce qu'ils partagent, enfin ce que Adorno, philosophe, partage avec Thomas Mann sur la question de la musique, c'est que la musique n'est pas autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autonomie de la musique, c'est-à-dire une sphère proprement esthétique. Non, c'est que la musique porte en elle des choix de civilisation, tout un régime nerveux, tout un régime psychique, physique, politique, et que donc il n'y a pas fondamentalement d'innocence au sens large de la musique. Et ça, c'est quelque chose qui je crois va énormément impressionné Thomas Mann. Il savait très bien que la musique était grande, qu'elle était le sommet de la culture, mais son lien avec la question politique, celle-là, elle devient vraiment importante, elle arrive à maturation dans l'écriture du Faustus.
Oui, parce qu'il fait dire à ses personnages, et au diable en particulier, que la composition est devenue trop difficile.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace de créativité au sein de la musique, parce que celle-ci est réduite par le déterminisme historique, en clair.
Oui, et puis il y a l'extrême fin du romantisme, c'est-à-dire l'extrême fin de la subjectivité plaintive. Après tout, c'est un grand livre de lamento, hein, c'est un grand livre de lamento musical, de lamento culturel, civilisationnel. Mais il y a surtout cette idée que la musique elle-même contient une espèce de poison, qui d'ailleurs est figuré dans le livre par le poison lui-même, la syphilis, enfin la façon dont...
Par la femme.
La musique est femme, c'est la Kundry dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, Thomas Mann reprend le passage de Nietzsche au bordel, donc, qui est repris dans le livre, et Adorno contracte. Donc cette maladie, uniquement pour pouvoir créer, et là on est vraiment dans le pacte, c'est-à-dire pour percer l'épuisement musical, la façon dont une subjectivité occidentale qui s'est affirmée dans l'humanisme, dans la 9e symphonie, hein, qui est synthétisée dans l'idée même de la 9e symphonie, comment cette 9e symphonie, cet humanisme, entre en contradiction radicale avec ce qui se passe socialement et politiquement. Autrement dit, peut-on écouter la 9e symphonie au moment du nazisme? Et c'est là où Adriaan va dire cette phrase extraordinaire. Il faut détruire la 9e symphonie. Et donc, partant de cette phrase...
Ce qui, pour un humaniste, est une phrase problématique.
Oui, alors, il n'est pas humaniste, précisément là, parce qu'il va chercher dans d'autres ressources musicales très, très objectives, ou disons dans un matériau objectif musical, une espèce d'expression même de la subjectivité. C'est-à-dire, ça serait en quittant la sphère proprement humaine, le pacte, qu'on rejoindrait l'humain. Ça, c'est la grande idée d'Adriaan. S'il y a une idée qui est la sienne, c'est celle-là. Elle me paraît à moi fausse. Elle paraît peut-être à Thomas Mann elle-même, erronée, enfin bon, ou en tout cas problématique. Mais en tout cas, on assiste à un épuisement musical et qu'on peut lire aussi comme une espèce de crise, en tout cas, de la fécondité artistique ou de l'inventivité au XXe siècle.
Il y a quelque chose d'insolent et de très surprenant
à
proposer une telle réflexion sur la musique en 1943 en Allemagne, comme si c'était la musique qui importait à ce moment-là.
Oui, mais
ça paraît complètement secondaire. Hitler est au pouvoir, les camps de concentration sont en train d'être découverts. Oui. Et c'est la musique qui est l'enjeu de ce livre, c'est la musique qui est quasiment responsable du pacte signé entre Adriaan et le diable.
Oui. Mais c'est toute la trajectoire, tout l'arc du livre qui va de la musique, qui va même, allons-y, de la théologie, hein, dont il a été question. Ensuite, il y a eu les mathématiques, dans l'éducation d'Adriaan. On arrive à la création musicale d'Adriaan et on finit par les camps de concentration. C'est-à-dire que l'arc que Thomas Mann décrit, c'est toute cette dimension grandiose de la culture, donc des plus grands musiciens, et qui aboutissent, enfin tous ces grands musiciens aboutissent dans cette logique culturelle absolument terrifiante, enfin terrible, aux camps de concentration qui sont décrits dans les derniers chapitres.
Ça veut dire que les musiciens sont responsables de ce qui se passe politiquement ou qu'au contraire, la musique est l'expression artistique de ce qui se passe politiquement?
Non, et les musiciens ne sont pas responsables. Même, les choses peuvent se discuter à propos de Wagner, mais là, je pense que
pour Thomas Mann, évidemment,
sont partagés. Mais non, les musiciens ne sont pas responsables, de même que la musique peut être accusée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est coupable. C'est-à-dire, elle peut être accusée, comme Thomas Mann le fait. C'est-à-dire, on peut l'interroger.
Oui, il l'accuse quand même.
Mais on peut l'interroger, surtout quand on aime cette musique. C'est ça, la question. Et si on ne l'aimait pas, l'affaire serait finalement réglée. Non, il aime cette musique, il ne peut absolument pas s'en passer. Il en écoute tous les soirs. Et en même temps, elle plonge cette musique dans les plus extrêmes empoisonnements de la culture. C'est-à-dire, elle a produit des effets catastrophiques.
Alors, dans quel sens?
Le sens... parce qu'elle a cette puissance immémoriale de s'emparer de l'âme, singulière et collective. Platon déjà disait que la musique, c'est ce qui entre le plus vite dans l'âme. Et après, il y a tout ce que Nietzsche a soulevé, c'est-à-dire la façon dont la musique peut ravir, dans tous les sens du mot, les individus, les foules, qu'il fallait s'en méfier, qu'il y avait là quelque chose d'hypnotique, qu'il y avait une puissance dont d'ailleurs Freud plus tard se méfiera lui aussi. Freud dont on n'a pas parlé, mais qui est important aussi dans le livre, parce que le livre c'est la formulation romanesque du malaise dans la civilisation. C'est bon. Et donc je crois que tout simplement la musique a une puissance de contamination, d'emportement des individus et des foules qu'on peut très bien voir dans ce que Thomas Mann a appelé tout à l'heure dans l'extrait l'ivresse. Mmh. L'ivresse au sens le plus commun du mot.
Dans ce cas, le narrateur a commencé à pactiser avec le diable bien avant sa rencontre avec le diable.
Absolument. Le pacte a toujours déjà eu lieu.
Elle a toujours déjà eu lieu. Mmh. C'est-à-dire depuis son amour pour la musique, depuis les cours qu'il suit à l'université du professeur Kretschmar, qui lui enseigne à l'écoute même de Beethoven. Vous diriez que c'est l'entrée dans la musique qui est déjà le pacte avec le diable?
Oui, parce que il y a plusieurs passages dans le livre qui laissent entendre que le pacte est originel. Le pacte est originel, c'est pour ça qu'il y a toute cette étude dans les premiers chapitres, toute cette étude de l'éducation d'Adriane, et qu'il y a même ces expérimentations que le père d'Adriane fait sur des plantes, sur des bocaux, où on observe la façon dont l'organisme croît. Et Adriane est une espèce de plante qui grandit, qui est typique de l'Allemagne, parce que qui est Adriane, dont il n'existe pas de portrait, au fond, physique, dans le livre, sauf à la fin où il porte un peu la barbe. Bon, mais il est à la fois Nietzsche, un peu Beethoven encore, un peu Hugo Wolf, qui va devenir fou, un peu Mahler, qui est déjà mort. Il est un peu tout ça. Et Thomas Mann, ça, il faut aussi le dire à propos du livre, il brouille les pistes. Il ne veut absolument pas trop déterminer. C'est-à-dire, il veut absolument inclure tout un ensemble de thématiques et de problématiques, et il ne veut pas, justement, référer le livre à quelque chose de trop historique ou de trop déterminé, pour que ça soit référé simplement à une individualité, que ça soit une biographie déguisée de Nietzsche, ce qui n'a pas d'intérêt pour lui.
Cependant que le mouvement s'achève, intervient un événement complètement inattendu et émouvant dans sa douceur et sa bonté. Après tant de fureur concentrée, de persistance, d'acharnement et d'égarement sublime. À l'instant où le motif très éprouvé prend congé et devient un adieu, un cri et un signe d'adieu, avec ce « ré, sol, sol », un léger changement se produit, une petite extension mélancolique. Après un ut initial, il s'augmente en un ut dièse devant le ré, en sorte que maintenant il ne se compte plus comme bleu de ciel ou pré-fleuri, mais comme ô double de ciel ou gentil pré-fleuri. Adieu pour toujours. Et cette adjonction de l'ut dièse est la chose la plus touchante, la plus consolante, la plus mélancoliquement apaisante du monde. Après, Kretschmar ne quitta plus le pianino pour regagner sa table de conférencier. Il resta en face de nous et acheva en quelques mots sa leçon sur le problème de savoir pourquoi Beethoven n'avait pas ajouté le troisième mouvement à l'opus 111. Il suffisait, dit-il, d'avoir entendu le morceau pour pouvoir répondre nous-mêmes à la question. Un troisième mouvement? Un recommencement après un pareil adieu? Un retour après cette séparation? Impossible. Il était advenu que la sonate, dans ce deuxième mouvement, cet énorme mouvement, s'était achevée à jamais. Le signe d'adieu du motif « ré, sol, sol », adouci mélancoliquement par l'ut dièse, était un adieu dans ce sens général aussi, un adieu grand comme l'œuvre, l'adieu de la sonate.
Thank you.
la dernière minute de la sonate 32 en ut mineur, opus 111, l'Arietta de Beethoven, interprétée ici par Jean-Eflamme Bavouzet, qui est décrite note après note par le texte que j'ai lu, André. C'est le narrateur qui parle dans le Docteur Faustus. C'est extraordinaire de voir la précision avec laquelle il transcrit dans le langage ce que l'écoute de la sonate nous fait de manière vraiment sensible.
Oui, c'est extraordinaire, d'autant plus que dans la traduction, on n'entend pas trop le nom d'Adorno, qui est son véritable nom, qui est Wiesengrund. Alors, je ne sais plus comment Louise Servisen traduisait, Préfleuri, c'est ça ?
C'est ça,
voilà.
Préfleuri.
Et donc, c'est un hommage à Adorno, et cette lecture, Thomas Mann l'a faite devant Adorno. Et Adorno était extrêmement ému par cette lecture. Adorno, qui lui-même avait joué devant Thomas Mann, lui-même intégralement cette sonate. Cette sonate, c'est l'adieu à la musique. C'est l'adieu à la musique. La musique telle qu'elle existait, c'est-à-dire la musique dans la tradition allemande telle qu'elle existait, c'est fini. Il n'y a pas de troisième. On ne recommence pas. On va peut-être faire tout à fait autre chose. Et c'est là où Adrian dit qu'il va composer une autre musique que cette musique de Beethoven lui-même. Beethoven lui-même, qui était déjà un des premiers à avoir, fréquenté les sphères du génie, mais qui avait su emporter avec lui, au fond, la force même du collectif, enfin de la liberté. Donc c'est Fidelio, c'est la 9e symphonie, c'est Schiller, sur lequel Thomas Mann va écrire son dernier texte. Sur Schiller. Et Adrian, quand il entend dans cette conférence du personnage qui s'appelle Kretschmar, qui est encore Adorno, qui est un professeur de piano, enfin conférencier, complètement hilarant et savant, qui est bègue, qui joue en même temps qu'il explique, enfin qui explique en même temps qu'il joue dans ce chapitre tout à fait étonnant. Et Adrian, le soir même de cette conférence, a cette intuition que lui va, par le pacte, écrire une autre musique.
Dépasser Beethoven.
Voilà, dépasser Beethoven. Et naturellement, ça va mal finir. Parce que là, on passe de Beethoven à Schoenberg, après.
Alors voilà, il nous reste quelques minutes, mais il faut évoquer Schoenberg, c'est-à-dire l'invention dans le roman de la musique dodécaphonique.
Oui, c'est-à-dire au fond la gamme des 12 sons, c'est-à-dire que tous les sons de la gamme traditionnelle vont avoir la même valeur et vont devoir être joués dans un ordre tout à fait déterminé, c'est-à-dire dans un ordre tout à fait objectif, qui va donner naissance à une musique extrêmement abstraite, mais dont Schoenberg dit que par une espèce de renversement dialectique, cela va donner naissance à une nouvelle forme de subjectivité, que l'affectivité est présente dans cette musique, que Schoenberg va dire pleine à craquer, enfin qu'elle est pleine à craquer d'affectivité. Je pense que, enfin, c'est un avis personnel, mais que l'histoire de la musique lui a donné un tout petit peu de tort, mais Adrian va cultiver à un moment donné cette forme de musique pour se séparer de l'humain, c'est-à-dire il ne veut pas tutoyer l'humanité, mais pour parler de l'humain par une espèce de détour dialectique extrêmement complexe, c'est-à-dire c'est en s'éloignant de l'humain qu'on rejoindrait l'humain. Et je crois que l'échec d'Adrian, c'est l'échec de ça, enfin c'est l'échec de cette tentative même d'Adrian. C'est-à-dire que le texte que nous avons entendu tout à l'heure sur l'humain le contredit, c'est-à-dire qu'il faut repasser par une dimension de l'affectivité, mais d'une toute nouvelle forme d'affectivité, d'une nouvelle forme de tendresse. Lorsque Adorno parle de la musique de Mahler, par exemple, il dit, j'ai relevé cette formule là décidément d'Adorno à propos de Mahler, il dit que la musique de Mahler caresse maternellement les cheveux de ceux vers qui elle se tourne. Bon, et qu'il s'agit là d'une tendresse, et que je crois qu'il y a dans le désir même de Thomas Mann, il y a le désir d'entendre cette musique à nouveau telle qu'on vient de l'entendre là chez Beethoven, et que ce sommet-là de la culture qui ne reviendra plus, il y a là cette dimension de nostalgie, du point de vue de la création, ça ne reviendra plus, il y a cette nostalgie, mais il y a aussi chez Thomas Mann le désir d'une rédemption. C'est-à-dire, on ne peut pas dire un optimisme, mais un désir de rédemption que ne partageait pas Adorno.
C'était le dernier mot du premier texte que nous avons entendu, cette rédemption, ce sont les derniers mots du texte. On a commencé l'émission avec Mahler, on aurait pu la finir avec Schoenberg, mais par superstition, ce qui arrive au narrateur dans le texte, je vous propose qu'on ne se quitte pas avec Schoenberg, mais qu'on retourne à Beethoven et qu'on écoute cette fois-ci le début de la sonate numéro 32, opus 111. Un grand merci à vous, André Hirt, d'être venu nous donner envie de lire le Docteur Faustus de Thomas Mann aujourd'hui. Une bonne lecture pour l'été, ainsi que votre livre, enfin le livre que vous lui avez consacré, Chantier Faustus, Thomas Mann et le roman de l'époque, disponible aux éditions Quimet. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Quelle activité estivale avez-vous choisie aujourd'hui ?
Chose promise, chose due pour cette sélection d'activités spéciales été entre le vélo et la photo, entre l'angoisse et le voyage. Eh bien, j'ai décidé de m'arrêter sur le bronzage. Cette idée me vient de la parution en poche du livre génial de l'historien Pascal Horry, L'invention du bronzage, essai d'une histoire culturelle, tout d'abord paru en 2008. Sur la quatrième de couverture, on peut lire que le sujet a été peu étudié. Eh bien, on s'en doute, puisqu'a priori, rien de moins intéressant pour l'esprit que de s'activer sur ce qui reste une des grandes paresses de l'été, à savoir lézarder au soleil. Et pourtant, il faut le souligner, bronzer suppose réflexion et organisation.
Comment vous faites pour bronzer ?
Ben, progressivement, une demi-heure le premier jour, une heure après, et puis après, éventuellement, tout l'après-midi. Enfin, je veux dire, je sais pas...
C'est très scientifique tout ça.
C'est très scientifique. Non, je sais pas, non, mais disons que c'est surtout pour éviter les coups de soleil, les brûlures.
Ah bah moi, écran total presque tout le temps. Et avec un maximum de précautions.
Pourquoi ?
Parce que j'ai une peau de blonde, que je suis vraiment blonde et que j'ai des problèmes sinon.
Mais vous essayez quand même de bronzer ?
Pas énormément. Hein. Ça bronze, ça va. Si ça bronze pas, tant pis.
Quel travail de reportage, Géraldine.
Comment le bronzage est-il devenu un phénomène culturel, un enjeu politique, une entreprise économique ? Cette question semble tout à la fois anecdotique, tant le bronzage paraît un passe-temps futile, et vaste, puisqu'il s'agit d'appréhender le bronzage comme un fait social total, c'est-à-dire comme un fait biologique, psychologique et sociologique, comme un fait porteur de signes d'une époque, de manière d'être à soi et à l'autre. Fait social total ou simple loisir contemporain, Pascal Horry a bien conscience de cette ambivalence du bronzage comme sujet d'étude. Pourtant, dans la lignée de l'histoire du corps menée par Georges Vigarello, Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine, il se lance dans son exploration et il y voit rien de moins qu'une révolution culturelle. Mais que peut bien révéler le bronzage, ce brunissement des peaux au soleil, cette action de se recouvrir d'une couche imitant le bronze, c'est la définition du littré, de nous, de nos manières d'être.
Bonjour.
Bonjour.
Ça fait si longtemps ?
Depuis des jours.
Ah d'accord. Vous, je vous crois, mais vous aviez brûlé avant.
Bien sûr. Ça a commencé il y a 3 semaines. C'est le soleil des tropiques.
Les petites gélules Orobronze en pharmacie.
Super, en vacances?
Non, je voyage beaucoup pour mon travail.
15 à 20 jours avant l'exposition au soleil.
Alors le matin, petit déjeuner au soleil au bord de la piscine privée. À midi, déjeuner sur le pont du bateau.
Ça s'avale et ça accélère le brunissement.
Et puis l'après-midi, relax, surf, ski nautique, c'est comme ça qu'on prenait.
Et vous alors, pas de voyage?
Non, mais si j'avais su, je serais partie avec toi.
Je te l'avais dit, mon soleil.
Or au bronze, les couleurs de l'été plus vite. Pour un bon usage, lire attentivement le mode d'emploi.
Comment en est-on venu non plus à fuir le soleil, mais à le rechercher, à cultiver ses effets sur notre peau, comme en témoigne cette publicité des années 80 pour la pilule Orobronze. Je la connaissais pas, cette pilule.
Moi non plus, ni la pilule ni la pub.
Pour sa part, Pascal Horry, dans l'invention du bronzage, alors je sais pas s'il connaissait la pilule, Pascal Horry insiste sur la révolution culturelle qu'est le bronzage, et c'est une révolution au sens propre du terme qui a vu en quelques décennies eh bien passer les peaux de la blancheur virginale au doré, brun et bronzé du soleil. Comment s'est opérée une telle inversion? Comment s'est donc inventé le bronzage? Ce sont les questions soulevées dans ce livre. Pour ma part, le bronzage me fascine tout autant comme révélateur d'une révolution culturelle, mais surtout parce qu'il fait émaner d'un pur passe-temps une révolution culturelle des corps et une maîtrise de soi. Comment, en s'allongeant sur une serviette au soleil, en mettant de la crème, en recherchant ou en se protégeant des effets du soleil, participe-t-on chacun à notre manière à cette grande révolution culturelle qu'est le bronzage?
Sous le soleil de juillet, on se sentait en été, partout en France. Je n'avais pas de projet, je n'avais rien réservé pour mes vacances. Mais tous mes amis m'ont dit, mais voyons, faites donc comme nous, et
allez donc vous faire bronzer, sur la plage, allez donc vous faire bronzer, sur la plage de Saint-Tropez.
Faire la révolution en s'allongeant au soleil, quoi de mieux que de prendre soin de soi en ne faisant rien, que de prôner une maîtrise de son corps tout en se laissant aller, quoi de mieux que d'inventer et réinventer son rapport aux éléments, comme les rayons UV, tout en se détendant. Loin des années d'exaltation du bronzage, nous sommes désormais plus prudents et au cœur de nos étés trône notre capital soleil. Mais c'est bien ça qui est fascinant, c'est que notre peau, plus qu'une simple surface, devient, ne cesse de devenir une interface entre soi et le monde.
Merci Géraldine. Le livre de Pascal Horry s'appelle
L'invention du bronzage, c'est paru en poche chez Flammarion.
C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo et surtout n'oubliez pas vos pilules Orobronze avant l'été. Un grand merci à Maude Markiewicz qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, David Pargamin, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr, Margot Fuchs et Lélia Siboni qui sont avec nous en stage cette semaine, Olivier Bétard qui réalise l'émission cette semaine, Pierrick Monsigny qui est à la prise de son aujourd'hui et Jacques Gamblin à la lecture des textes. Demain, une quatrième recommandation de lecture pour votre été, ce sera Le métier de vivre de Cesare Pavese. C'est l'écrivain Jean-Pierre Ferrini qui viendra vous en parler. D'ici là, pour écouter cette émission sur le docteur Faustus de Thomas Mann, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, tout l'été. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain donc, 10h, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.